France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le pacte germano-soviétique. C'est un coup de tonnerre dont l'histoire a parfois le secret. Dans la nuit 23 au 24 août 1939, les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne nazie et de la Russie soviétique, Ribbentrop et Molotov, signent un accord de non-agression entre les deux pays. Ces régimes sont pourtant des ennemis aux idéologies absolument antagonistes, avec pour seul point commun un régime de dictature. Alors même que la menace nazie devient de plus en plus concrète, les Britanniques rechignent à s'associer avec les Soviétiques. Ils tergiversent. Et bientôt, il est trop tard. Le pacte Ribbentrop-Molotov s'impose, motivé par un calcul cynique qui permet à Moscou et à Berlin de se partager le gâteau de la Pologne et plus globalement de redécouper leur sphère d'influence respective en Europe de l'Est. Mais ce n'était qu'alliance de circonstances. Le 22 juin 1941, Hitler se retourne contre son éphémère allié et envahit l'Union soviétique, creusant ainsi la tombe de l'Allemagne nazie. Notre invitée aujourd'hui, Sabine Dulin, professeure en histoire contemporaine de la Russie et de l'Union soviétique à Sciences Po Paris. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Marie Kirchen, rédaction chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Donnante, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Août 1939, aéroport de Moscou. Il est 13h quand l'avion Condor qui transporte Joachim von Ribbentrop atterrit sur le tarmac. Le ministre allemand des Affaires étrangères est tendu. Cela fait des mois qu'il plaide auprès d'Hitler pour un rapprochement de l'Allemagne avec l'URSS. Le pari est osé, très osé. Mais Ribbentrop n'est pas vraiment connu ni pour son humilité, ni pour son intelligence, et il est persuadé qu'il s'agit d'un coup de poker, de génie, bien sûr. Il obtient le feu vert d'Hitler, qui évidemment décide tout. Le rendez-vous est accepté à la dernière minute par les autorités soviétiques. Pour accueillir le dignitaire allemand avec un certain décorum, on a tout de même attaché à la va-vite des drapeaux à croix gammée dans le terminal, à côté de bannières rouges à la faucille et au marteau. Mais ici, on n'a pas vraiment l'habitude d'afficher des symboles nazis. Alors, les seules banderoles qu'on a pu trouver proviennent d'un studio de cinéma, où elles servent habituellement au tournage de films de propagande antifasciste. À 15h30, Ribbentrop et sa délégation arrivent enfin au Kremlin. Le ministre s'apprête à être reçu par son homologue russe, Vyacheslav Molotov. Mais quelle n'est pas sa surprise quand il aperçoit, à côté de ce dernier, un homme à la moustache et à la tunique caractéristique, Staline, en personne. Les premières discussions sont plutôt faciles entre les représentants des deux rives de l'Empire du Mal. En réalité, l'essentiel des points était validé dans les jours précédents. Pour le reste, Hitler a donné une marge de manœuvre à Ribbentrop. Il peut s'aider beaucoup pour convaincre Staline de signer en urgence. Ainsi, à 3h du matin, les deux ministres apposent leur paraphe au bas du document. Les photographes officiels font crépiter leurs flashs. Le pacte Ribbentrop-Molotov, donc germano-soviétique, est signé. La nouvelle se répand à toute vitesse à travers le monde, comme ici aux États-Unis.
Nous interrompons cette émission pour vous communiquer une nouvelle spéciale en provenance de Moscou. L'Allemagne et la Russie ont signé aujourd'hui un pacte de non-agression. Ils ont convenu qu'aucun des deux pays ne se déclarerait la guerre et qu'aucun des deux ne viendrait en aide à un tiers au cas où l'un ou l'autre serait attaqué.
Cet accord est un choc pour les démocraties à travers le monde, mais pour les deux pays signataires également. Cela fait des années qu'Hitler proclame sa volonté d'écraser l'URSS. Et cette dernière s'est toujours présentée comme un rempart contre la menace fasciste. Alors, comment est-ce possible? Pour comprendre la signature de ce pacte qui défie toute logique politique et historique, il faut remonter quelques années en arrière. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 1933, Hitler est obsédé par le soi-disant judéo-bolchevisme. et il compte tout faire pour exterminer le communisme, comme il l'explique dans ce discours.
Deutschland, Deutschland, über alles, über alles.
Kampf gegen den Marxismus wurde damals
le combat
zum ersten Mal
contre le marxisme
eine
est devenu le but suprême de la lutte.
Damals erlobte ich mir zum ersten Mal
dès l'époque où j'étais encore inconnu, je me suis juré de lui livrer une guerre et de la mener jusqu'à ce que cette maladie soit effacée de la vie allemande.
Pour cette croisade, Hitler rêve d'une alliance avec la Grande-Bretagne, qui voit d'un mauvais œil l'influence que peut avoir l'Union soviétique sur les ouvriers britanniques et sur les communistes. L'Union soviétique, elle, craint par-dessus tout que les pays capitalistes s'allient pour tenter de la renverser. Car tout occupé à construire le socialisme dans un seul pays, selon le dogme de Staline, l'Union soviétique a besoin de paix. Après quelques années à vilipender les démocraties impérialistes, ses dirigeants finissent par adopter une position, disons, plus pragmatique, en tentant de se rapprocher des démocraties occidentales. Un homme va symboliser cette politique, Maxim Litvinov. Commissaire du peuple aux affaires étrangères à partir de 1930, ce brillant orateur a le profil parfait. Il ne parle pas moins de 7 langues, a vécu longtemps à l'étranger et s'est marié à une Anglaise. Il épouse, issue d'une famille militaire british, ça rassure les Occidentaux. D'origine juive, Litvinov n'est que trop conscient des dangers du fléau nazi. Et il trouve une oreille attentive chez Louis Barthou, ministre français des Affaires étrangères. Cet homme de droite craint les velléités allemandes de réarmement. Et l'URSS est un allié de choix pour prendre en tenaille nos voisins germaniques, comme lors de la Première Guerre. Alors, il commence à travailler sur un projet d'alliance franco-russe. Barthou défend également Litvinov dans sa bataille pour faire accepter l'URSS dans la Société des Nations, comme on peut l'entendre dans ce discours de 1934 devant l'Assemblée genevoise.
Voici un pays qui demande à entrer dans la communauté européenne, qui soumet aux lois de la Société des Nations. Il en accepte toutes les conditions. Vous allez le rejeter, vous allez l'humilier, vous allez le renvoyer, aigri, méfiant, hostile. Et cette propagande que vous redoutez, vous croyez que vous aurez mis fin parce que vous aurez opposé un refus à la demande de la Russie soviétique? Je pense le contraire. Cette propagande, je ne dirais pas que vous en serez les maîtres, mais j'aime mieux avoir devant moi, responsable, l'Union soviétique qui s'expliquera sur des faits qui relèvent de la vie internationale que de rejeter la Russie ou là-bas contre l'Europe. J'estime qu'il est de l'intérêt de la Société des Nations d'accueillir la demande des Russes.
Mais le cours de l'histoire tient parfois à peu de choses. Quelques jours après ce discours, Barthou se rend à Marseille pour accueillir la visite du roi de Yougoslavie. Le ministre français prend place aux côtés du souverain dans une décapotable qui s'élance sur une cannebière noire de curieux. C'est alors qu'un nationaliste bulgare surgit de la foule et tire sur le roi. La police riposte, mais une balle perdue touche Barthou au bras. Et le ministre meurt. Le projet d'alliance atterrit alors sur le bureau de son successeur, un certain Pierre Laval, qui lui rechigne à s'associer avec des bolcheviks. Et puis, il craint que ce partenariat ne renforce l'influence du Parti communiste français. S'il finit par signer le projet de traité sur lequel avait travaillé Barthou, ce n'est qu'après l'avoir émasculé de tout ce que Barthou aurait voulu y mettre, selon les mots de l'historien Jean-Baptiste Durosel. Désormais, ce sont les Britanniques qui s'imposent comme des alliés stratégiques aux yeux du gouvernement français. Pour construire les ponts avec l'Europe, ce sont donc les dirigeants anglais que les Soviétiques vont devoir convaincre. Pour cela, Litvinov peut s'appuyer sur les talents de diplomate de son ami Ivan Maïski, l'ambassadeur russe à Londres. Petit homme cordial et bavard, à la silhouette rondouillarde, Maïski sait se faire apprécier de ses interlocuteurs. Il ne ménage pas ses efforts pour essayer de persuader l'opinion publique anglaise que les soviétiques ne sont pas si effrayants que ça. Loin de se limiter aux traditionnels échanges avec le Foreign Office, il cultive des amitiés avec des journalistes, des intellectuels et même avec des banquiers de la City. Oui, il tente de les convaincre, c'est d'Allemagne que vient le danger. Et en effet, la menace nazie se fait bientôt plus précise. En mars 1935, Hitler décide de rétablir le service militaire, enfreignant ainsi les clauses du traité de Versailles, l'heure des comptes après la Première Guerre mondiale. La Grande-Bretagne envoie alors deux ministres à Berlin pour rencontrer Hitler, qui ne veut rien entendre. Et ensuite ? Eh bien ensuite, rien. Les Britanniques s'engouffrent dans une politique dite d'apaisement. La sauvegarde de la paix, pense-t-il, vaut bien quelques concessions aux Allemands. Hitler continue donc sur sa lancée et, en mars 36, il procède à la remilitarisation de la Rhénanie. Mais cette fois, c'en est trop. Albert Sarraut, le chef du gouvernement français, ne compte pas laisser l'Allemagne s'en tirer à si bon compte, comme il l'explique dans ce discours.
Le gouvernement français, pour sa part, est bien résolu à ne pas négocier sous la menace. Le seul fait, comme épris d'engagement solennel, des soldats allemands sont maintenant installés sur les bords du Rhin, interdit pour le moment la négociation. Nous ne sommes pas disposés à laisser placer Strasbourg sous le feu du canon allemand. Notre cause est juste et forte. En la défendant, nous avons conscience de défendre avec notre destin un élément essentiel de la paix européenne.
Sarraut veut que l'armée intervienne, mais l'état-major français freine des quatre fers. Les militaires pensent, à tort, que les forces allemandes sont désormais supérieures aux françaises et qu'une réaction militaire n'est donc envisageable qu'avec l'accord de la Grande-Bretagne, qui, elle, leur déconseille fortement de réagir. Décidément, c'est bien Londres qui donne le la de la diplomatie en Europe. Et son soutien est l'objet de toutes les convoitises, y compris celle d'Hitler, qui fantasme toujours sur une entente avec l'archipel britannique. Pour mener à bien cette tâche, il nomme Ribbentrop ambassadeur à Londres. Celui-là n'est pourtant pas un fidèle de la première heure. Mais à force de zèle et de flatterie, il a réussi à convaincre Hitler, sans éviter de s'attirer au passage le mépris de ses petits camarades, comme Goebbels, qui persifle. Son nom, il l'a acheté. Sa fortune, il l'a épousée. Son administration, il l'a escroquée. L'entourage d'Hitler est un véritable panier de crabes. Ils se détestent tous et se jalousent. Reste que Ribbentrop, toujours aussi finaud, commence fort mal sa mission en effectuant un salut nazi alors qu'il se présente devant le roi. Le protocole exige pourtant qu'on s'incline. Dans son journal, Maïski note avec délice que l'affaire a profondément offensé les Anglais. Malgré ses gaffes, Hitler confie tout de même à Ribbentrop le soin de signer un pacte anti-Comintern avec le Japon, l'autre ennemi des Russes depuis que l'archipel a envahi la Mandchourie. Classique dialectique qui veut que les ennemis de mes ennemis soient mes amis.
Après des semaines de négociations secrètes, l'Allemand von Ribbentrop et le Japonais Mushano Koi ont signé le pacte anticommuniste entre l'Allemagne et le Japon sous le regard des membres de la délégation japonaise. Puis von Ribbentrop a donné le point de vue allemand.
L'accord entre l'Allemagne et le Japon contre l'international communiste signé aujourd'hui constitue un tournant dans la lutte défensive de toutes les nations pacifiques et civilisées contre les puissances de la destruction. L'Allemagne souhaite vivement que d'autres pays, reconnaissant le danger mondial qui n'a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité, se joignent à cette défense.
Face à ce front anti-soviétique en construction, l'alliance avec les démocraties de l'Ouest devient de plus en plus pressante pour Moscou. Mais la diplomatie portée par Litvinov trébuche bientôt sur un obstacle particulièrement grave. À l'été 37, rongé par une paranoïa délirante, Staline commet un crime de masse en lançant des purges dans ses propres rangs. Accusés d'être des éléments contre-révolutionnaires, des centaines de milliers de soviétiques sont arbitrairement arrêtés, déportés, voire fusillés. Une partie d'entre eux sont jugés lors des grands procès de Moscou, où le procureur général, le terrible Vyshinsky, tient ce genre de discours.
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Il est clair pour tous que les ennemis et saboteurs ici présents, qu'ils se cachent sous le drapeau de Trotsky ou de Boukharine, ne font plus partie des courants politiques du mouvement des travailleurs. Ils se sont transformés en une bande sans principes et sans idéaux, une bande d'ennemis, de saboteurs, d'espions et d'assassins professionnels. Il est clair que ces messieurs doivent être écrasés et détruits sans merci.
L'état-major de l'armée rouge paie un tribut particulièrement lourd à cette folie sanguinaire. Désormais, quel intérêt pour les Occidentaux de s'allier avec une armée mutilée? Et bientôt, ce sont Litvinov et Maïski eux-mêmes qui sont soupçonnés et qui doivent batailler pour échapper de justesse aux purges. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le pacte germano-soviétique.
Affaires Sensibles.
Je vais vous incorporer tous dans l'armée du Reich. Vous allez, une fois encore, vous battre pour la puissance allemande. Mon Führer, c'est un moment qui va marquer le commencement d'une nouvelle ère. Sieg Heil!
Fabrice Drouel.
Pendant que Staline s'en prend à ses compatriotes, Hitler, lui, se lance dans les conquêtes territoriales. En mars 1938, il annexe l'Autriche. Puis les Sudètes, une région de la Tchécoslovaquie à majorité germanophone, dont Hitler estime qu'elle est menacée, prétexte à l'invasion. Mais la Tchécoslovaquie est alliée de la France et de l'Union soviétique, qui annonce, par la voix de Litvinov, qu'elle compte bien honorer son accord militaire, à condition que Paris en fasse de même. Mais les Français s'inquiètent surtout de savoir ce que va faire Londres. Et que fait Londres? Le 15 septembre 1938, le Premier ministre Neville Chamberlain file à Berlin pour échanger avec Ribbentrop, désormais ministre des Affaires étrangères, et avec Hitler, qu'il pense pouvoir ramener à la raison. À tort. 15 jours plus tard, le Royaume-Uni et la France abandonnent la Tchécoslovaquie en signant les fameux accords de Munich qui laissent Hitler annexer les Sudètes. La France et la Grande-Bretagne ont donc préféré signer avec l'Allemagne plutôt que s'allier avec l'Union soviétique, qui n'a même pas été conviée à la conférence, ni consultée. Pour Staline, c'est une énième confirmation que la politique menée par Litvinov ne marche pas. Il est même persuadé que Londres s'acoquine ainsi avec Berlin pour s'assurer qu'Hitler attaquera à l'Est, plutôt qu'à l'ouest. Dans la prolongation du traité de Munich, Ribbentrop est reçu en grande pompe à Paris en décembre 1938 pour signer un pacte de non-agression avec la France, comme le rapportent les actualités pâtées.
Monsieur Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, vient à Paris pour signer une déclaration officielle dans laquelle l'Allemagne et la France, représentées par Monsieur Georges Bonnet, expriment leur volonté de collaboration pacifique. Après avoir déjeuné à l'hôtel Matignon, où il a été l'invité de Monsieur Daladier, président du Conseil, Monsieur von Ribbentrop se rend au ministère des Affaires étrangères, où, dans le salon de l'horloge, et signer la déclaration franco-allemande.
Deux grandes nations se déclarent prêtes, après de sérieux différends dans le passé, à établir des rapports de bon voisinage pour l'avenir. Avec cette déclaration de leur volonté, ils expriment la conviction qu'il n'existe entre eux aucune opposition d'ordre vital qui puisse justifier un sérieux conflit.
Mais tous ces efforts ne vont pas arrêter Hitler. Le 15 mars 1939, sous une tempête de neige, il lance ses panzers sur le reste du territoire tchécoslovaque. Désormais, il est clair qu'on ne peut pas faire confiance aux promesses du dictateur nazi. Alors, le temps d'une alliance Paris-Londres-Moscou est-il enfin venu? D'autant qu'Hitler souhaite maintenant annexer le corridor de Danzig, en Pologne. Parce que son but reste toujours d'écraser l'URSS et qu'il a besoin de cette ville portuaire, Danzig, pour attaquer le territoire russe par le nord. Devant la menace, Chamberlain s'engage à soutenir militairement la Pologne en cas d'attaque. Une quinzaine de jours plus tard, et malgré une très grande méfiance envers la Grande-Bretagne, Litvinov revient vers ses interlocuteurs français et anglais pour mettre sur la table un ambitieux projet, une véritable triple alliance d'assistance mutuelle avec des conventions militaires qui protégeraient tous les États frontaliers de l'URSS en cas d'agression pour dissuader Hitler. Sauf que les Britanniques ne sont pas prêts à protéger tout le monde. Et début mai, ils refusent officiellement. Alarmé par la menace d'une guerre de plus en plus probable, le gouvernement français fait alors pression sur son allié d'outre-Manche, qui accepte, finalement, de reprendre les discussions fin mai. Sauf que voilà, entre-temps, le vent a tourné du côté du Kremlin. Discrédité depuis la conférence de Munich, Litvinov vient d'être remplacé par son plus féroce critique, l'impétueux Molotov. Un homme surnommé la matraque de Staline, qui lui n'a jamais été très favorable aux démocraties occidentales. Pendant des semaines, les négociations piétinent entre Russes, Britanniques et Français. En réalité, ils ne veulent pas le même traité. Les Britanniques veulent surtout laisser planer la menace d'une triple alliance contre Hitler pour tempérer les ardeurs de ce dernier. Staline, lui, souhaite des engagements fermes de collaboration militaire, car il a très peur de se retrouver seul face à Hitler si les Occidentaux lâchent la Pologne, comme ils ont abandonné la Tchécoslovaquie. Dans ces conditions, difficile de se mettre d'accord. Début juillet 1939, Molotov finit par taper du poing sur la table. Les Russes veulent une convention militaire et il n'y aura pas de traité sans celle-ci. Il est convenu qu'une délégation militaire franco-britannique se rende à Moscou. Mais les Britanniques font traîner à dessein. Maïski tombe des nues quand il apprend que la mission militaire va se rendre dans la capitale soviétique dans un bateau particulièrement lent. Dans son journal, l'ambassadeur raconte son échange avec la délégation à la veille de son départ.
Quand j'ai demandé à l'amiral pourquoi la délégation ne se rendait pas à Moscou par avion pour gagner du temps, il s'est pincé les lèvres et a dit « Voyez-vous, nous sommes déjà près de 20 et nous avons beaucoup de bagages. Et ce ne sera pas confortable en avion. » Je ne peux pas dire que j'ai trouvé cette réponse convaincante. J'ai poursuivi. En ce cas, pourquoi ne pas voyager sur un navire de guerre? Un croiseur rapide, par exemple. Cela ferait forte impression et vous arriverez plus vite. Il a de nouveau pincé les lèvres et dit méditatif « Mais cela voudrait dire chasser 20 officiers de leur cabine. Ce serait gênant. J'en croyais pas mes oreilles. Quel tendre sentiment, quelle manière délicate. Ainsi, les missions militaires anglaises et françaises vont se rendre à Moscou sur un navire marchand. Ce doit être un cargo, à en juger par sa lenteur. Et cela à un moment en Europe où le sol commence à se consumer sous nos pieds. Incroyable! Le gouvernement britannique veut-il vraiment un accord ?»
Anticommuniste convaincu, Chamberlain commet une erreur en traînant ainsi les pieds et en faisant douter ses interlocuteurs de la sincérité de sa démarche. Car entre-temps, un dialogue a commencé à s'esquisser entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Et pour cause, du côté du Troisième Reich, on se prépare à attaquer très bientôt la Pologne. Mais l'état-major craint le déclenchement d'une guerre sur plusieurs fronts, configuration qui avait été fatale à l'Allemagne en 14-18. Alors, pour éviter tout risque de contre-offensive, pourquoi ne pas pactiser temporairement avec l'URSS et ainsi priver les démocraties occidentales de cet allié potentiel? Une fois la décision prise, les Allemands vont faire preuve d'un empressement qui n'a d'égal que la lenteur des Britanniques. De premiers appels du pied sont ainsi effectués en toute discrétion auprès du chargé d'affaires soviétique à Berlin. Puis des discussions sur de possibles accords économiques s'engagent plus formellement entre Molotov et l'ambassadeur allemand à Moscou. Le soviétique est intéressé, mais ne signe rien pour l'instant. Car il s'apprête à recevoir la délégation franco-britannique, actuellement en train de voguer lentement, très lentement, vers la Russie. Celle-ci arrive enfin à Moscou le 11 août, 7 jours après son départ, comme l'annoncent les actualités britanniques.
Les discussions sur le pacte anglo-russe ont franchi une nouvelle étape avec l'arrivée dans la capitale russe des missions britanniques et françaises pour les négociations. La délégation britannique est dirigée par l'amiral Sir Reginald Plunkett Early Earl Drax et la délégation française par le général Dumas. Ils sont accueillis par de charmants messieurs russes au nom imprononçable. Alors là où jusqu'à présent les politiques semblent avoir échoué, peut-être les experts militaires parviendront à ajuster les points de vue de deux nations puissantes, chacune déterminée à maintenir la paix et la liberté de l'Europe.
Les tractations commencent plutôt mal. Les soviétiques se rendent compte que l'amiral anglais n'a que très peu de marge de manœuvre pour négocier un accord et qu'il doit sans cesse consulter Londres. Si les Français sont absolument convaincus de l'urgence de signer, le représentant britannique a reçu l'ordre de tout faire pour que l'accord se limite à des termes les plus généraux possibles, afin de ne pas lier les mains de la Grande-Bretagne. Bref, c'est un dialogue de sourds, et surtout, un problème capital dont les potentiels alliés sont bien conscients depuis des mois. Pour pouvoir intervenir militairement en Allemagne, l'armée rouge a besoin de traverser la Pologne. Mais les Polonais refusent d'autoriser son passage, expliquant avoir bien trop peur qu'elle ne reparte jamais. Très vite, c'est sur cette contrainte géographique que les pourparlers butent. Le négociateur soviétique est exaspéré. Rien ne pourra être fait si Paris et Londres ne font pas pression sur la Pologne. Le 17 août, les pourparlers sont suspendus en attendant que cette question soit réglée. Au même moment, Ribbentrop demande d'être reçu à Moscou. Les Russes acceptent l'idée mais temporisent. Sauf que Hitler, lui, est pressé. Il veut attaquer la Pologne fin août, soit dans quelques jours. Et il a besoin d'acheter la paix à tout prix avec l'Empire soviétique avant le début de la bataille. Alors, le 19 août, il sort le grand jeu. Il écrit directement à Staline pour lui demander de recevoir Ribbentrop dès le 23 août. Confortablement installé à son bureau, le tyran communiste relit soigneusement la missive et souligne de son gros crayon bleu cette formulation d'Hitler qui indique que la crise avec la Pologne peut éclater n'importe quand et qu'il ferait bien de ne pas perdre du temps. C'est un ultimatum. Staline accepte. En France, c'est la consternation à l'annonce du pacte Ribbentrop-Molotov, comme le montre ce discours du chef du gouvernement, Édouard Daladier.
Pour organiser le front de la paix contre toutes les tentatives d'agression, nous avons pris des engagements avec d'autres pays. C'est dans ce but, notamment, que nous avions engagé avec la Russie des conversations politiques et militaires. Et nous pensions qu'elles allaient aboutir heureusement lorsque, renversant brusquement sa politique et sa doctrine, la Russie a signé avec l'Allemagne un pacte qui lui permet de se dérober aux obligations que lui imposait la politique qu'elle a cependant toujours publiquement affirmées. En réalité, les circonstances obscures dans lesquelles ce pacte a été négocié démontrent qu'il augmente les chances d'une agression contre les amis de la France et contre la France elle-même.
Officiellement, ce pacte est un traité de non-agression prévu pour 10 ans. mais il contient également un protocole annexe, soigneusement tenu secret, dans lequel les deux pays délimitent leur sphère d'influence en Europe orientale. L'Allemagne revendique l'ouest de la Pologne et la Lituanie, tandis qu'elle laisse à l'URSS le reste de la Pologne, la Lettonie, l'Estonie, la Bessarabie roumaine et la Finlande. Ainsi, les deux ennemis trouvent leur compte. Plutôt que de signer l'alliance tripartite menant à la guerre, l'Union soviétique s'assure, pour l'instant, de rester en paix. Le pacte prive ses ennemis japonais d'un potentiel soutien allemand en Mandchourie. Enfin, l'accord territorial donne à Staline des coups d'effranche pour repousser ses frontières plus à l'ouest. Staline pense que tout va bien. Première erreur. Hitler, lui, peut partir tranquillement à la conquête de la Pologne sans craindre une contre-attaque russe. Il est même persuadé que les franco-britanniques n'oseront pas riposter. Seconde erreur. Comme quoi ces deux dictateurs sont de piètres stratèges. Le 1er septembre, l'Allemagne lance ses troupes en direction de Varsovie. Et deux jours plus tard, Paris et Londres lui déclarent la guerre. Dans les semaines et les mois suivants, Staline va soigneusement appliquer des protocoles secrets en envahissant la partie orientale de la Pologne, en attaquant la Finlande, puis la Bessarabie et les États baltes. Le maître du Kremlin réintègre ainsi en Union soviétique des territoires ayant appartenu à l'Empire tsariste, mais au prix d'une trahison totale de la cause antifasciste. D'autant que le pacte de non-agression avec le régime nazi s'accompagne bientôt d'accords économiques qui permettent à l'Allemagne de contourner le blocus naval britannique. La puissance soviétique accepte ainsi de fournir au régime hitlérien des céréales, du pétrole, du phosphate, des métaux, des matières premières essentielles à son effort de guerre. Le 27 novembre 1940, Ribbentrop invite même Molotov à Berlin, comme le racontent les actualités dans une France désormais vichiste.
Parallèlement, la visite à Berlin de M. Molotov, que nous voyons ici accueillie à sa descente de train par M. von Ribbentrop, montre clairement que la Russie suit avec sympathie l'édification de l'Union européenne. En outre, ce voyage, qui est le premier déplacement à l'étranger du commissaire soviétique, revêt une importance exceptionnelle puisqu'il a lieu quelques jours après les entretiens que le Führer a eus avec le maréchal Pétain, le général Franco et M. Mussolini.
Mais la lune de miel ne dure qu'un temps. La France, mise hors d'état de nuire, Hitler tourne à nouveau son regard vers l'URSS. Au printemps 41, Staline reçoit des avertissements de pas moins de 47 sources différentes. Toutes indiquent que les Allemands se préparent à frapper. Mais le maître du Kremlin soupçonne surtout les Britanniques de vouloir l'embobiner pour l'entraîner dans la guerre. Et pourtant... Le 22 juin 1941, à 3h30 du matin, les bombardiers de la Luftwaffe larguent leurs engins de mort le long de la frontière germano-soviétique. Alors que le chef de l'état-major soviétique appelle Staline pour le prévenir de l'attaque, ce dernier reste sans voix. Le militaire n'entend que la lourde respiration des dictateurs stupéfaits à l'autre bout du combiné. Et il est obligé de lui répéter « Avez-vous compris ce que je viens de dire ?» Contre toute attente, Staline ordonne d'abord de ne pas riposter. Non, il veut croire qu'il s'agit juste d'une provocation de militaires nazis dont Hitler ne serait pas au courant. À 5 heures, l'ambassadeur allemand arrive au Kremlin pour rencontrer un Molotov particulièrement pâle. Très embarrassé, le diplomate lui fait comprendre que c'est bien le commencement de la guerre. Devant la détresse de Molotov, il sort un instant de sa réserve et lui avoue qu'il trouve l'action de son propre gouvernement inexcusable. Ému, Molotov s'étrangle. « Nous n'avons pas mérité ça. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle conclu un pacte de non-agression si elle le rompt si facilement ?» Mais Hitler est un monstre, sans foi ni loi. En Grande-Bretagne, c'est Winston Churchill, désormais Premier ministre, qui annonce la nouvelle à ses compatriotes.
À 4 heures ce matin, Hitler a attaqué et envahi la Russie. Tout cela ne m'a pas surpris. En fait, j'ai donné des avertissements clairs et précis à Staline sur ce qui se préparait. Hitler est un monstre de méchanceté, insatiable dans sa soif de sang et de pillage.
c'est le début de l'opération Barbarossa, un nouveau théâtre de guerre où les affrontements vont prendre des proportions inouïes et qui sera absolument déterminant dans la défaite nazie. Après des années de suspicion mutuelle, le Royaume-Uni et l'URSS se retrouvent de facto alliés. Et quelques semaines plus tard, le 12 juillet 1941, les deux pays scellent enfin un accord militaire. L'horreur nazie n'y survivra pas pour le bien de l'humanité.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le pacte germano-soviétique dont nous parlons avec notre invitée Sabine Dulin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, enseignante à Sciences Po et spécialisée sur la Russie et l'Union soviétique. Vous avez écrit plusieurs livres sur l'histoire de ce pays, et notamment deux ouvrages qui nous intéressent particulièrement au regard de notre sujet, le sujet du jour, Des hommes d'influence, les ambassadeurs de Staline en Europe, livre publié chez Payot et qui se penche donc sur la diplomatie soviétique pendant les années 30. Je cite également La frontière épaisse, livre paru aux éditions de l'EHE2S sur la question des frontières de l'URSS. Alors ce pacte Ribbentrop-Molotov est signé le 23 août 1939. Que sait-on de l'atmosphère de cette signature, de ce qui se passe dans ce bureau avec Ribbentrop, Molotov et Staline présents?
Finalement, c'est un petit peu comme dans n'importe quelle signature de pacte, puisque personne ne tient à montrer ni la nouveauté, ni le revirement. Donc voilà, on signe un papier qui est censé tout simplement repousser la guerre du point de vue soviétique, et donc tout le monde joue sa partie. Rien n'est montré de ce qui pourrait être extraordinaire dans cette signature. C'est plutôt à l'extérieur que la stupeur a lieu, aussi bien d'ailleurs dans le public soviétique, dont on connaît peu évidemment les émotions.
Mais il faudrait une opinion publique pour ça.
Voilà, exactement. Et en revanche, on le sait plus pour l'opinion européenne, qui évidemment est très frappée par cette annonce d'un pacte de non-agression entre deux ennemis d'hier.
Alors, quelles sont les conséquences pour les communistes dans les pays européens? Parce que ça n'a pas dû être facile à vivre, tout de même.
Alors, les communistes, évidemment, sont stupéfaits. Un certain nombre de députés, par exemple, communistes au Parlement français, montrent leur désaccord à l'égard de ce pacte, ne le comprennent pas. Et par ailleurs, très vite, ça va être un problème pour les communistes qui sont très souvent interdits, comme c'est le cas en France. Le parti devient clandestin parce que, à partir de là, le gouvernement considère que le Parti communiste est un collaborateur de l'ennemi nazi. Donc, évidemment, c'est un coup de tonnerre. En même temps, comme souvent dans le cas des communistes, on a immédiatement des éléments de langage pour essayer de faire comprendre ce revirement. Donc, les éléments de langage, c'est bien sûr la nécessité pour l'URSS de rester en paix, le fait que de toute façon les démocraties occidentales ont tout fait pour repousser l'agression hitlérienne vers l'Est et que donc c'est bien normal que les soviétiques trouvent une parade. Donc tout est fait évidemment pour justifier ce pacte de non-agression. Ce qui est frappant, c'est que dans les années précédentes, les soviétiques ont été quand même les fers de lance de l'antifascisme en Europe, qu'ils ont participé notamment à la guerre d'Espagne du côté des républicains antifascistes contre Franco, qui était appuyé par l'Allemagne nazie et par l'Italie mussolinienne. Et donc, bien évidemment, que pour l'opinion publique européenne, c'est une sorte de virage à 180 degrés. Mais on sait aussi que c'est bien la différence entre les démocraties et les dictatures et les totalitarismes nazis comme soviétiques. C'est qu'on peut changer de politique de manière très très brutale. C'est beaucoup moins le cas dans les démocraties où on est obligé de préparer l'opinion en général.
Alors, quand même, il y a un manque de vision stratégique et géostratégique, parce qu'une alliance tripartite France, Royaume-Uni, Union soviétique aurait fait sens. On l'a dit, elle aurait permis une alliance de revers contre l'Allemagne nazie. Et pourtant, elle ne s'impose pas tout de suite. Comment expliquer ça?
Il n'y a jamais eu de complète interruption des relations entre l'URSS et l'Allemagne. Il faut bien voir qu'en 1935, en 1937, on a notamment des discussions et des accords économiques entre l'URSS et l'Allemagne. Car il y a une longue histoire de la relation spécifique entre l'URSS et l'Allemagne au sortir du traité de Versailles. Il faut bien voir qu'à l'époque, c'était les deux États parias de l'Europe. Ils étaient complètement exclus de la société internationale et de ce fait, ils s'étaient rapprochés. Donc, bien sûr, en 1933, lorsque Hitler arrive au pouvoir, il est clair que les bonnes relations, disons, entre l'Allemagne et l'URSS commencent à ne plus exister du tout. Il va y avoir donc un arrêt d'un certain nombre de coopérations, mais ça n'empêche pas qu'il reste dans les différentes élites allemandes des pro-soviétiques. Notamment dans les milieux économiques et militaires. Et de ce fait, il y a régulièrement des tests, des sondages, des discussions. Et du côté soviétique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on veut toujours essayer d'avoir plusieurs politiques possibles et éviter d'être engagé dans une seule politique. Donc il y a constamment... Ça veut dire qu'au printemps 1939, lorsque se renoue des négociations entre Berlin et Moscou, on renoue quelque chose qui n'a jamais été complètement arrêté.
Alors, dans les années 30, Litvinov, donc le diplomate soviétique avant Molotov, se fait le grand défenseur de ce qu'on appelle alors la sécurité collective. Ça consiste en quoi ? C'est quoi ce concept ?
Donc, c'est l'idée d'essayer d'éviter le retour des alliances d'avant la Première Guerre mondiale qui avait débouché sur un engrenage un petit peu mécanique vers la guerre. C'est dans un contexte où il ne faut pas oublier que toutes les sociétés occidentales, toutes les sociétés de l'Europe ne veulent plus de guerre. Voilà. Il y a vraiment, c'est l'idée de la der des der et on ne veut plus revoir ça. Et évidemment que toutes les politiques d'apaisement des Français et des Britanniques, c'est relié à cette nécessité d'aller dans le sens de l'opinion publique pacifiste. Alors, à un moment donné, les Soviétiques ont besoin de paix, notamment parce que Staline est en train de lancer son plan quinquennal, industrialise le pays. Donc avant que l'URSS puisse devenir une puissance militaire et industrielle susceptible de tenir une guerre, il faut du temps. Et pendant ce temps, il faut la paix. Et c'est là où Litvinov propose une politique qui serait de davantage négocier avec la France, notamment la France et aussi l'Angleterre, dans un moment où de toute façon l'Allemagne s'éloigne avec Hitler. Donc là, il y a une volonté de créer une sorte de... Voilà, une série de pactes d'assistance mutuelle, de pactes de non-agression.
Qui sera un rempart à l'Allemagne nazie, en fait.
C'est vraiment la pactomanie à l'époque. L'idée, c'est non pas de créer des alliances contre l'Allemagne, mais d'essayer d'entourer l'Allemagne d'une sorte de toile d'araignée, de garantie d'assistance mutuelle qui permettrait de la neutraliser.
D'accord.
C'est ça l'idée. Et c'est là, d'ailleurs, où donc la négociation entre Bartou et Litvinov compte. Mais c'est là aussi où on aura, malgré tout, même avec Laval, qui pourtant est plutôt pro-allemand et pro-italien, une sorte de pacte d'assistance mutuelle, à la fois avec la Tchécoslovaquie, la France et l'URSS, mais qui est garanti derrière la Société des Nations. Donc c'est évidemment un petit peu des nuages de fumée, d'une certaine manière, mais qui rassure et qui surtout montre que ce qu'on veut, c'est défendre, mais non pas attaquer.
France Inter. Affaires sensibles.
Sabine Dulinge, je rappelle que vous êtes historienne, enseignante à Sciences Po, spécialiste de la Russie et de l'Union soviétique. Vous avez écrit plusieurs livres sur l'histoire de ce pays. Alors, il y a le pacte germano-soviétique et il y a les clauses secrètes. Quelles sont-elles ?
La clause secrète, donc c'est le protocole secret qui donc divise l'Europe orientale en zone d'influence entre Staline et Hitler. Bon, vous l'avez mentionné, donc d'un côté on a l'ouest de la Pologne et normalement la Lituanie pour l'Allemagne nazie, même si après dans un deuxième protocole secret qui aura lieu le 28 septembre 1939, après donc la division de la Pologne, la Lituanie va finalement être donnée aux Soviétiques. Donc on a finalement, à la fin de ces deux protocoles secrets, celui du 23 août et du 28 septembre, les trois États baltes du côté soviétique, ainsi que la Bessarabie, et une petite région, la Bukovine, qui n'était pas dans l'Empire russe.
Elle se trouve où ?
Qui est juste à côté de la Roumanie, à côté de la Bessarabie, mais qui était avant dans l'Autriche-Hongrie. et qui est demandée par les Soviétiques parce qu'elle serait ukrainienne. Derrière ce partage de l'Europe, il y a finalement ce que Staline voulait depuis le début des années 30. C'était d'obtenir des garanties de sécurité à l'extérieur du territoire soviétique. Mmh. Depuis le début, en fait, l'idée, c'est que les pays qui sont limitrophes de l'URSS, la Pologne, la Roumanie, les Pays-Baltes, la Finlande, sont des places d'armes pour les puissances hostiles à l'URSS, que ce soit l'Angleterre et la France dans certains cas, que ce soit l'Allemagne nazie dans d'autres, et que donc la seule garantie réelle pour les Soviétiques, c'est de pouvoir intervenir sur ces territoires de manière préventive. Mmh. Alors évidemment qu'il fallait que ça reste secret, parce que il faut pas oublier que le communisme, Lénine, etc., bon, c'était quand même la fondation d'une nouvelle Union soviétique qui était normalement anti-impérialiste, hein, qui était contre ce qu'avait fait avant l'Empire russe, etc. Je veux dire, le mensonge a tenu jusqu'à Gorbatchev. Hein, oui. Et Molotov a continué à jusqu'à dire qu'il n'avait jamais signé ces protocoles secrets. Donc là, on voit à quel point c'était un tabou du point de vue même des leaders communistes soviétiques, staliniens.
Est-ce qu'il y a eu une sorte de reconnaissance mutuelle entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie sur le concept de régime autoritaire contre les démocraties molles? Est-ce qu'il y a une reconnaissance comme ça?
Hitler et Staline s'observent. Ils s'observent et il faut bien voir que lorsque, par exemple, Hitler procède à l'annexion des Sudètes, puis à l'annexion de la Tchécoslovaquie, de manière en fait tout à fait reconnue par tout le monde, au bout du compte, c'est quelque chose qui est très observé du point de vue des Soviétiques. Et d'une certaine manière, toute leur manière de faire à l'égard des Pays-Baltes après le pacte germano-soviétique, donc dans l'année 39-40, est du même ordre. Mmh. C'est-à-dire réussir à faire, d'obliger en fait les leaders baltes à faire rentrer l'armée rouge sur leur territoire. C'est exactement ce qui s'est passé pour la Tchécoslovaquie et Munich. Donc là, il y a bien sûr une observation réciproque de ce qu'on fait. Les premiers qui vont violer un pacte de non-agression, c'est Staline par rapport à la Finlande. La Finlande avait un pacte de non-agression avec l'URSS depuis 1932, qui va être violé avec le début de la guerre contre la Finlande donc en décembre 1939. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'URSS sera exclue de la Société des Nations, après y être entrée donc en 1934, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais ça n'empêche pas que ce sont les premiers à violer les pactes de non-agression signés quelques années précédemment, au grand dam de Litvinov, hein, qui observe tout ça, de sa retraite, on va dire, un petit peu dangereuse, après mai 39, lorsqu'il est démissionné.
Bien, ça sera le mot de la fin. Merci infiniment. Je rappelle les titres de vos livres, deux titres au moins, Des hommes d'influence, les ambassadeurs de Staline en Europe et La frontière épaisse aux éditions de l'EHE2S. Merci Sabine Dulin, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le pacte germano-soviétique, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Adèle Coglard.